Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses?
À la conquête des promesses.
À la conquête des promesses. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la conquête des promesses. C'est notre thème de l'année. C'est un thème qui est très excitant parce que quand j'étudie la parole de Dieu autour de ces thèmes-là, je trouve tellement de choses. Je ne sais même pas si un jour on aura le temps de parler de tout. Donc je pense que beaucoup de choses me serviront à mon édification personnelle, mais je nous invite nous aussi à aller méditer la parole sur ce sujet-là, à réécouter bien entendu les enseignements qu'on a, mais aller aussi méditer la parole sur ce sujet. Dieu a fait des promesses, je le répète encore une fois, Dieu a fait des promesses à notre sujet. Ces promesses que Dieu a faites à notre sujet, il les a insérées, intégrées, déposées, mises dans une alliance qu'il a tissée avec nous. Cette alliance, c'est l'alliance que nous avons en Christ. En Christ, nous avons une alliance. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu expérimentes ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu expérimentes la nouvelle naissance, tu te lies automatiquement avec Dieu. Comme nous l'avons dit dans les cours fondements, la nouvelle naissance est le résultat, comment dire, la nouvelle création à la nouvelle naissance, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il est une nouvelle création. Voilà, donc le jour où tu deviens une nouvelle création, il y a ce qui se passe, il y a une fusion entre l'humanité et la divinité de Dieu, entre ton humanité et la divinité de Dieu, au point où tu deviens avec Dieu une seule et même personne. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui est en communion avec Dieu est avec lui un seul esprit. Il n'y a plus deux esprits, c'est maintenant un seul esprit. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes une seule et même personne. Et lorsque cette fusion se fait, lorsque cette union se fait, il y a une alliance que Dieu établit entre lui et toi. Et dans cette alliance-là, que Dieu établit entre lui et toi, il y met des promesses. Il y met des promesses et il y met aussi des droits et des privilèges. Nous en avons parlé dans l'enseignement sur les clés du royaume. Il y a des choses dans la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est à toi, Dieu te l'a donné, c'est à toi. Tu te lèves dans la prière et tu ne supplies même pas Dieu pour ça. Tu prends, c'est tout. Par exemple, pour donner un exemple, dans l'alliance que Dieu a faite avec toi, Il y a une promesse qu'on appelle la fécondité. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu es appelé à enfanter des enfants naturels et à enfanter aussi dans le spirituel aussi. Mais dans le naturel, tu es aussi appelé à enfanter. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Donc, si tu es une femme stérile, tu n'arrives pas à enfanter, c'est pas normal. Ça veut dire que tu ne jouis pas d'un droit qui t'appartient. Donc, il faut que tu ailles devant Dieu et sur la base de l'alliance, comme il dit dans le livre d'Ésaïe, viens et plaidons. C'est le mot que Dieu utilise dans le livre d'Ésaïe, viens et plaidons. Je ne me rappelle plus le chapitre. Viens et plaidons. Le mot plaider, c'est un mot qui est utilisé par les hommes de loi, les avocats. On plaide. On plaide sur quoi? On plaide sur la base de documents solides, où il y a des preuves, où il y a des droits, les droits de celui que l'on accuse, etc. Quand tu te mets devant Dieu dans la prière, sur la base de l'alliance, je t'assure, Dieu écoute. C'est pour cela que quand le diable a tenté Jésus, Jésus-Christ prenait tout le temps la parole. Il est écrit, deux points, que tu ne tenteras point le Seigneur, etc. Il est écrit, deux points. Et le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Vous pensez que le diable, quand il vient, il parle au hasard, le diable disait, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit, etc. Fais ceci et cela. Donc le diable se base aussi sur l'alliance pour te confondre. Et c'est pour cela que le diable est quelqu'un qui connaît la Bible par cœur. Et c'est pour cela qu'il faut que tu connaisses aussi ta Bible par cœur. Sinon, tu risques de te faire avoir. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils vont dans les églises, et le pasteur commence à raconter n'importe quoi, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans l'alliance, on les endort. On les envoûte. On les emmène dans des doctrines bizarres. On leur parle des démons à longueur de journée, alors que Jésus-Christ parlait tout le temps du royaume et de Dieu. On leur dit tout un tas de bêtises, et eux, ils mangent. Et c'est exactement la même chose dans les religions. Dans certaines religions, il y a des gens qui disent, voilà, on nous a dit que quand on est triste, il faut qu'on prie comme ça. Quand on est malade, il faut qu'on prie cette prière. Quand on a peur, il faut qu'on dise cette prière. Qui t'a dit ça? C'est écrit dans la Bible, ça. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Oui, mais c'est comme ça, c'est l'autorité qui a dit ça. Quelle autorité qui a dit ça? C'est lui qui écrit la Bible? C'est pas lui qui écrit la Bible. Voilà, donc les gens ne connaissent pas l'alliance. Et comme aujourd'hui, de nos jours, les gens ne lisent plus la Bible, les gens ne connaissent pas leurs droits. C'est comme un honnête citoyen au Gabon qui n'a jamais pris le temps de lire la constitution du Gabon. Encore moins le code civil. Donc le jour où les huissiers viennent cogner à sa porte, et commencent à ramasser toutes ses affaires, il ne sait même pas que dans le code civil, les huissiers doivent d'abord lui ramener un acte qui justifie que ils ont l'autorisation de venir chez lui. Ils viennent juste comme ça, ils ne montrent même pas de carte. Vous n'avez jamais vu dans les films où quelqu'un vient et puis il dit « Au nom de la loi, je vous arrête, je suis policier. » Et puis la personne dit « Montrez-moi votre plaque qui prouve que vous êtes policier. » Si vous ne montrez pas la plaque, vous n'êtes pas policier pour moi. Vous n'avez même pas la tenue qui prouve que vous êtes policier. Voilà. Donc, c'est sur la base de l'alliance que tu plaides. C'est sur la base de l'alliance que tu pries. C'est sur la base de l'alliance que tu as en Christ que tu vas demander des choses à Dieu. Et quand tu y as droit, et que tu le demandes au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez, donc c'est-à-dire qu'on a le droit de demander des choses, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Un jour, j'étais en train de regarder la télévision et j'étais en train de regarder une session extraordinaire aux Nations Unies. Il y avait plusieurs chefs d'État de plusieurs pays, avec des parlementaires, etc. Et puis, il y a un monsieur, apparemment, qui était très important. Ce n'était pas le secrétaire général de l'ONU, mais c'était quelqu'un, apparemment, de très important, qui dit, nous allons tous nous lever et nous allons prier pour telle situation dans tel pays, etc. Et nous allons demander, nous allons demander la grâce de Dieu. Pour que les gens, d'accord, ils se sont levés, ils ont dû à prier. Donc, tout le monde s'est levé. Tu vois, les chefs d'État, ils sont là, ils regardent, ils attendent que le monsieur se mette à prier. Et le monsieur commence à prier. Et le monsieur dit, « Oh Dieu, nous te demandons d'intervenir dans ce pays. Fais grâce à ce pays, etc., etc., etc. » Et après, il s'arrête et puis il dit, « Amen. » Tout le monde dit, « Amen. » Et puis tout le monde s'assoit. J'ai dit, « Prière inefficace. Tu as prié au nom de qui, là ?» C'est-à-dire, Dieu, il dit, quand il a dit, « Oh Dieu, Dieu a ouvert la porte. » Oh, ah, vraiment, il y a quelqu'un qui me parle ici. En plus, apparemment, c'est les chefs d'État. « Ah, enfin, peut-être que la terre a compris que j'existe. » Et puis, il prie, quand il finit de prier, il ferme la prière. Jésus-Christ dit, mais il ne prie pas en mon nom. Il prie au nom de qui? Dans la salle, il y a des musulmans, il y a des non-croyants, il y a de tout là-bas. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Tout ce que vous demanderez en un autre nom, le Père ne vous le donnera pas. C'est ce qu'il est en train de dire ici, Jésus. Amen. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu sur la base de l'alliance qu'on a avec lui, il nous le donne. Et dans cette alliance, il y a des droits, des privilèges et il y a aussi des promesses. D'accord? Quelle est la différence entre un droit et une promesse? La différence entre un droit et une promesse, c'est que le droit est un fait établi. C'est un fait réel, il est immédiat. C'est-à-dire, tu le prends et tu en fais usage dans l'immédiat. Okay? La promesse, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui doit arriver dans un avenir proche ou lointain. Mais c'est à toi de faire l'effort d'aller la chercher. D'accord? C'est à toi de faire l'effort de poser les actes pour amener la promesse à sa réalisation. Donc, quand Dieu dit « J'ai pour toi des projets de paix et non des projets de paix et de bonheur et non de malheur », etc., ça veut dire que tout ce qu'il a pour toi n'est pas encore arrivé à manifestation. D'accord? C'est comme quand les parents ont un héritage pour leur enfant, mais l'enfant est encore trop jeune. Ils disent à l'enfant « Nous te promettons qu'à l'âge de la majorité, à 18 ans, tu vas bénéficier de ton héritage. » Et l'enfant, il doit attendre 18 ans pour bénéficier de son héritage. Amen. Voilà. Donc, tant que la personne n'est pas arrivée, n'a pas atteint la maturité spirituelle, n'a pas fait ce qu'il faut pour pouvoir entrer en possession de ce qui lui appartient, l'héritage reste toujours non utilisé. Mais l'héritage est disponible. L'héritage est disponible. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, et tout ceci, on est en train de le partager sur la base du texte de Josué, au chapitre 3 et 4, où Josué, avec le peuple, s'apprête à rentrer en Canaan. On a déjà dit beaucoup de choses sur la préparation à la conquête des promesses, sur la manière dont les Juifs se sont préparés et le comportement que Josué et le peuple ont adopté au moment où ils étaient en train de traverser le Jourdain. Et au moment où ils traversaient le Jourdain, Josué a fait un certain nombre de choses, un certain nombre d'actes qu'il a posés qui étaient tout simplement prophétiques. Parce qu'il s'apprêtait à aller combattre en Canaan pour prendre possession des villes et il fallait qu'il se prépare pour ça. Et Josué prit 12 pierres au moment où ils étaient dans le Jourdain en train de traverser. Il prit 12 pierres. Et ces 12 pierres, on a dit que c'était un acte par lequel Dieu était en train de sceller prophétiquement la victoire du peuple d'Israël sur Canaan. Amen. Voilà, donc, et au travers de ce texte, le Seigneur nous montrait qu'il y a quatre attitudes que Dieu a demandé au peuple d'adopter. La première attitude, c'est celle sur laquelle nous sommes en ce moment. Nous verrons les trois autres la semaine prochaine. Et la première attitude que Dieu demande à Josué de dire au peuple d'adopter se trouve dans Josué 3, au verset 5. La Bible dit « Josué sortit de la tente et donna cet ordre au peuple. » Et n'oubliez pas que la Bible est toujours l'image et l'ombre de ce qui nous concerne, nous. Il donna cet ordre, Josué 3, au verset 5, il dit « Consacrez-vous, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Nous avons dit que quand on parle de consécration, on parle de mettre ta vie à part, de consacrer toute ta vie et tout ce qui t'appartient à Dieu. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne lui sont pas consacrés. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne lui appartiennent pas. Il peut les utiliser. Il y a une différence entre utiliser quelqu'un et travailler avec lui. Dieu peut utiliser un païen pour accomplir ses desseins. Mais Dieu ne travaille qu'avec des gens qui lui appartiennent, qui lui sont fidèles. Et la consécration est la première condition pour travailler avec Dieu. La consécration est la première condition pour faire des exploits avec Dieu. La consécration est le point de départ pour avoir une intimité profonde avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intimité? Parce que le fait de traverser le Jourdain était une expérience intime que chaque juif devait avoir avec Dieu pour se préparer à la conquête de la promesse. Et c'est une image que Dieu nous donne ici en nous disant que dans la saison de la conquête, lorsque tu es sur le point d'entrer en possession de ce que Dieu t'a promis, la première chose que tu dois faire, c'est te consacrer et chercher Dieu dans l'intimité. Les gens qui font des exploits avec Dieu, ce sont des gens qui sont intimes avec lui. Les gens qui font des exploits avec Dieu, ce sont des gens qui sont proches de lui. Amen. Voilà, donc, il a demandé à Josué de sélectionner 12 personnes au moment où il traverserait le Jourdain avec le peuple, de sélectionner 12 personnes et de ramasser 12 pierres. Et avec ces 12 pierres, de bâtir un autel. Et Dieu ne choisit pas le chiffre 12 par hasard pour sceller la victoire. Le chiffre 12, nous avons dit que c'est le chiffre du gouvernement, c'est le chiffre de la domination. La nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 piliers. Jésus a organisé son gouvernement avec 12 apôtres. Et cet enseignement, Dieu nous l'a donné le 12 janvier. Nous avons commencé à prêcher cet enseignement le 12 janvier. Et il y a 12 mois dans l'année. Chaque pierre, nous l'avons dit prophétiquement, annonce un mois de l'année dans laquelle tu es en train d'entrer. Et dans le mot consécration, il y a 12 lettres. 12 lettres. Et le Seigneur nous montrait que Chacune de ces lettres représentait une pierre. Et chaque pierre, dans le cadre de la consécration, représente tout simplement une bénédiction que le Seigneur nous donne dans l'intimité. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc la consécration, est-ce qu'on peut dire avec moi la consécration? La consécration est très importante pour découvrir le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur. Les gens qui ne se consacrent pas et qui croient que Dieu est avec eux ou que Dieu travaille avec eux, ce sont des gens qui se voilent la face. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas consacrés. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui font tout un tas de choses qui ne sont pas bonnes et qui disent, mais Dieu est toujours là. Dieu, ça fait longtemps qu'il est parti, mon ami. Ça fait très longtemps. Et tout est spirituel. C'est une loi. C'est une loi. Et tu ne peux pas vouloir opérer à la dimension du surnaturel avec Dieu et remporter des victoires avec lui si tu ne te consacres pas. Donc la consécration est très importante. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la première bénédiction. La première bénédiction est la que l'on reçoit dans l'intimité avec Dieu lorsque l'on se consacre. Lorsque l'on se consacre, la première bénédiction que les Juifs ont reçue lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, la première bénédiction que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a traversé le Jourdain, a reçue, ensuite qu'il partit dans le désert, etc., la première bénédiction que nous avons vue, c'était la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la connaissance de Dieu? Pourquoi la connaissance de Dieu? Parce que connaître Dieu est la première condition pour faire des exploits avec lui. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas aller à la conquête des promesses. Parce que au moment de la conquête, tu vas vivre des circonstances qui vont venir remettre en question ta connaissance de Dieu. Quand vous voyez beaucoup de gens qui sont en Christ et puis tout d'un coup qui abandonnent le Seigneur, qui retournent dans le monde faire des choses pires que ce qu'ils faisaient avant, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils pensaient qu'ils avaient rencontré le Seigneur, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que quand tu reçois la connaissance de Dieu, c'est vrai, tu peux commettre des actes. C'est vrai, tu peux commettre des actes, mais il y a un niveau de connaissance quand tu es dans l'intimité avec Dieu qui t'amène à dire, Seigneur, en montant, en descend, je reste avec toi. Ton pied, mon pied, je te lâche plus. Est-ce qu'on me suit? C'est la première bénédiction. La première bénédiction d'une vie de consécration et d'obéissance. Et quand tu cherches Dieu dans l'intimité, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, il va te révéler qui il est. Et quand tu découvres qui est Dieu, je t'assure, la vie ne te fait plus peur. Ta foi augmente d'un coup. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, tu sais qui est ton Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans les Épîtres, je sais en qui j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Quand il dit, voilà pourquoi j'ai parlé, c'est parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait des gens très dangereux, des gens qui pouvaient le tuer. Parce que Paul aurait pu mourir dès le début de son ministère. Mais il a continué à parler, il a continué à évangéliser, il a continué à annoncer l'évangile parce qu'il savait en qui il croyait. Et lorsque, rappelez-vous l'épisode où il était dans le bateau en train d'aller à Rome, là, il a dit que Satan envoya une tempête. Satan envoya une tempête sur le bateau et tout le monde dans le bateau avait peur parce qu'ils savaient que cette tempête-là, pour eux, c'était la fin, ils allaient tous mourir. Et en plein dans la tempête, Paul se lève. Et Paul commence à crier sur tout le monde en disant, n'ayez pas peur, car un ange de mon Dieu est venu me dire cette nuit de ne pas avoir peur, car le Seigneur nous protégera. Et le Seigneur aussi m'a dit que nous allons tous vivre. À mon avis, des païens, ils ont tous dû le regarder. Ils ont dit, on a embarqué encore un de ces illuminés là qui vient. Il ne voit pas qu'il y a la tempête. Et puis lui, il nous parle de Dieu qui doit nous protéger. Non, Paul savait qui il était, il savait en qui il croyait. Il avait une connaissance de Dieu qui le remplissait d'assurance. Et dans l'année, quand tu vas aller à la conquête des promesses que Dieu a pour toi, quand tu vas commencer à poser des actions, quand tu vas commencer à lancer tes projets, quand tu vas commencer à travailler, quand tu vas commencer à faire des choses, je t'assure, il y a des choses qui vont venir remettre ça en question. Il y a des choses qui vont te pousser à abandonner. Il y a des choses qui vont te pousser à laisser tomber. Mais parce que tu sais en qui tu crois, tu vas continuer à te battre. Est-ce qu'on peut dire avec moi la connaissance? La deuxième bénédiction, c'était le haut. L'onction. Et on a dit que l'onction n'était pas une sensation, l'onction est une force. L'onction est on a dit que l'onction est un manteau que Dieu dépose sur toi pour opérer dans la dimension du surnaturel. Dieu, quand tu travailles avec lui, quand tu es en connexion avec lui et qu'il te demande de faire quelque chose, quand on lit la parole, on regarde la parole, Dieu dépose toujours sur son serviteur un manteau. Toujours. Quel que soit ce qu'il demande de faire, il dépose toujours un manteau. La Bible nous parle beaucoup des prophètes, nous parle beaucoup des rois, nous parle beaucoup des hommes de Dieu, des prédicateurs, etc. Mais quel que soit ton appel, quel que soit ton ministère, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, quel que soit le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur, la vision qu'il te donne à accomplir sur cette terre, il va toujours déposer un manteau sur ta vie. L'onction. Et l'onction, tu en as besoin. Jésus-Christ alla dans le Jourdain, il se fit baptiser. D'accord? Ensuite, sa foi fut testée. Il alla au désert et il fut tenté. La Bible dit que dans le livre de Luc 4, au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Là, il sortait de l'intimité. Il sortait de l'intimité avec une présence. Il était rempli, mais ça ne lui permettait pas d'opérer. Tu ne peux pas te lancer dans le travail que Dieu t'a demandé sans que Dieu t'ait revêtu d'une onction. Et c'est dans Luc 4, au verset 14, après l'épisode du désert, que la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il revint et là, il avait reçu l'onction maintenant pour commencer à travailler. Et quand tu veux lancer quelque chose, quand tu t'apprêtes à lancer quelque chose de très important qui va bouleverser ta vie, tu dois aller te chercher Dieu dans l'intimité pour qu'il te dépose ce manteau sur ta vie. C'est très important. Amen. On va continuer avec la troisième bénédiction qui est le N. Quand tu te consacres, quand tu cherches Dieu dans l'intimité, quand tu es proche de lui, quand tu es connecté à lui, il va te donner la connaissance, il va te donner l'onction. Et la troisième chose qu'il va te donner, c'est sa nature. La nature, est-ce qu'on peut dire avec moi la nature? La nature divine. Quand tu te consacres à Dieu et que tu développes une intimité profonde avec lui, sa nature s'imprègne en toi. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et plus sa nature s'imprègne en toi. C'est un principe. Même dans le naturel, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus cette personne va avoir de l'influence sur toi. Est-ce que c'est faux? Plus tu passes du temps avec quelqu'un, si cette personne n'est pas une bonne fréquentation, elle risque de t'attirer des problèmes. Si tu marches avec les moqueurs, tôt ou tard, toi aussi, tu deviens moqueur. Si tu marches avec les menteurs, tôt ou tard, toi aussi, tu deviens menteur. Si tu marches avec les voleurs, tôt ou tard, toi aussi, tu deviens voleur. Si tu marches avec Dieu, tôt ou tard, tu commences à ressembler à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Pour réussir dans la saison de la conquête, tout comme cela fut pour les Juifs avec Josué, pour réussir dans la saison de la conquête, tu dois d'abord te laisser transformer par le Saint-Esprit. Le mot « transformer » ici, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés. C'est un mot grec que l'on traduit aussi dans d'autres versions, « transfiguré ». C'est le mot grec « métamorpho » avec deux « o » à la fin, que l'on a décliné en français « métamorphosé », du verbe « métamorphosé » ou « métamorphose ». La métamorphose, c'est quoi? La métamorphose, c'est passer d'un état à un autre. D'accord? Donc, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans l'intimité avec lui, plus tu vas te métamorphoser, plus tu vas commencer à le ressembler. Et cette nature-là, tu en as besoin pour aller conquérir tes promesses. Amen. Une autre version de la Bible, pour ce même passage, que l'on appelle la parole vivante, version parole vivante, nous donne une définition encore plus profonde, plus détaillée de ce passage que j'aime beaucoup. Elle dit, or, 2 Corinthiens 3, 18, or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. Métamorphosé. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu es métamorphosé. Les Juifs ont passé du temps avec Dieu dans l'intimité. C'est pour cela qu'ils étaient extrêmement dangereux quand ils sont arrivés à Canaan. La Bible raconte, faites état des morts chez les ennemis, mais la Bible ne fait pas état de mort chez les Juifs. Sauf quand ils allèrent se battre sans avoir pris le temps d'aller dans l'intimité. Vous ne vous rappelez pas des batailles où les Juifs ne consultèrent pas le Seigneur, allèrent à la bataille et on les tuèrent tous là-bas parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'aller consulter Dieu. David lui-même, à chaque fois qu'il allait en bataille, la Bible dit dans les 1 Samuel et 2 Samuel que David consultait toujours le Seigneur avant d'aller en bataille. Toujours. Et le jour où il ne consultait pas le Seigneur, ce n'était pas une bonne chose pour lui. D'ailleurs, il fit des choses, il posa des actes extrêmement, enfin, qui bouleversèrent sa vie. L'adultère avec Bathsheba. La Bible dit que David était seul. Tout le monde était parti en bataille. Il était seul à la maison et au palais. Et il se baladait sur le toit de son palais dans un moment de solitude. Et là, il vit Bathsheba. Au lieu d'être en train de prier ou d'être seul dans l'intimité avec Dieu, il prit une décision qui ruina, qui amena des problèmes dans sa vie. Pareil pour Salomon, l'homme qui reçut une sagesse extraordinaire. Il ne prit pas le temps de consulter Dieu. Au point d'aller signer des accords commerciaux avec d'autres nations. Et ces nations sont venues envahir Israël avec leur commerce. Et ces nations, quand elles vinrent envahir Israël avec leur commerce, elles emmenèrent aussi toutes leurs abominations, leur culture, etc. Et ça détruisit Israël. Et Salomon lui-même chuta, au point de commencer à adorer d'autres dieux, à épouser d'autres femmes. Il avait perdu l'intimité. La métamorphose avait cessé. Au début, il avait commencé bien, mais il finit mal. Amen. Est-ce qu'on me suit? La nature divine. Donc, contempler le Seigneur veut dire passer du temps dans sa présence, à l'admirer, à l'écouter, prendre le temps de le contempler, de le regarder. Comment est-ce que tu contemples le Seigneur? David dit dans le psaume 23 au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David voulait toujours habiter dans la maison de l'Éternel parce qu'il savait que là-bas, il pouvait contempler. Et quand il sortait de là-bas, il était encore plus dangereux qu'avant. C'est ça un peu le paradoxe. C'est-à-dire, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, au lieu de sortir comme un agneau, tu sors comme un lion prêt à conquérir tout. Et c'est ça le paradoxe avec Dieu. C'est-à-dire, plus tu passes du temps. Et regardez bien, quand on lit l'histoire de Josué dans la Bible, très tôt, Moïse avait pris Josué sous sa houlette. Et il a eu dit un moment, je ne sais plus c'est dans quel passage de l'Exode, Moïse était dans la tente de la rencontre face à l'Éternel. Et quand Moïse sortit de la tente, Josué, fils de Noun, resta dans la tente. Point. La Bible ne nous dit pas autre chose. Il resta dans la tente. C'est-à-dire que ce passage nous révèle qu'il était avec Moïse tout le temps dans la tente. Quand Moïse sortait pour aller faire le travail auprès du peuple, lui restait toute la journée dans la tente. Josué avait pris beaucoup de temps dans l'intimité, dans la contemplation. Et c'est pour cela qu'il était légitime pour le poste après Moïse. Amen. David dit encore dans le psaume chapitre 27 au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Admirer son temple. Plus je suis dans sa présence, plus je l'admire. Plus je suis dans sa présence, plus je le contemple et plus je le ressemble. Et David avait compris ce secret. C'est pour cela que David aimait passer du temps dans la présence de Dieu. Il était le roi de toute une nation, mais il passait la plupart de son temps dans la présence de Dieu. Et quand tu veux faire des choses, quand tu veux bâtir des projets, tu veux bâtir des entreprises, tu veux construire des choses avec le Seigneur, au lieu de passer plus de temps dans le travail, toujours derrière l'ordinateur, toujours dans les rendez-vous, toujours en train de faire plein de choses, tu n'as plus le temps pour prier, tu es toujours fatigué, etc., etc., passe du temps dans la présence. Parce que si tu ne passes pas du temps dans la présence, tu es toujours pressé de partir le matin, tu risques de te retrouver en entreprise et tu vas être confronté à des situations très délicates pour ton travail et tu vas prendre des décisions à la hâte. Alors que si tu avais pris le temps de rester dans l'intimité avant de sortir, le Saint-Esprit t'aurait parlé. Amen. Le Saint-Esprit t'aurait parlé. Mais comme tu oublies le Saint-Esprit, tu es tellement occupé que tu n'as plus le temps pour Dieu. Mais tu vas dehors et puis tu fais des bêtises. Ou bien tu vas dehors et le diable met des tentations ou met des obstacles sur ton chemin et tu n'arrives pas à y faire face. Parce que tout simplement, tu n'as pas pris le temps de te préparer. C'est pareil pour nos journées, mais c'est pareil aussi pour les projets importants que nous avons pour notre vie. Par exemple, il y a des gens qui vont se marier. Tu veux te marier, mais tu ne prends pas le temps d'aller consulter Dieu dans l'intimité et demander à Dieu, « Est-ce que, Seigneur, cette personne est la personne de ma vie ?»« Oh, elle est jolie, je l'aime. » Mon cœur bat pour elle, etc., etc., etc. Tu vas, tu épouses la personne et tu découvres qu'une fois qu'elle est là-bas, Godoua, elle enlève le masque et puis elle te montre son vrai visage. Quand elle te montre son vrai visage, tu dis, oh, c'est pas la femme que j'ai épousée. Trop tard, tu l'as épousée. Tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Et il t'aurait montré que ce n'était pas la bonne personne. Amen. Un jour, j'étais à un séminaire, j'écoutais un pasteur anglophone et il racontait une histoire, en fait, une jeune fille de son église qui était tombée amoureuse d'un chanteur anglais très connu en Angleterre. Et le chanteur en question l'a demandé en mariage. Ils ont commencé à se fréquenter et il l'a demandé en mariage. Mais elle a dit, elle connaissait le secret de l'intimité. Elle a dit au gars, je vais d'abord laisse-moi le temps de réfléchir. Et elle partit, elle rentra dans le jeûne et dans la prière, elle rentra dans l'intimité. Et pendant son temps de jeûne, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours de jeûne, Au bout de quelques jours de jeûne et de prière, dans la consécration et dans la recherche de la face de Dieu, elle reçoit un songe. Elle reçoit un songe. Et dans le songe en question, elle se voit avec le garçon. Elle se voit avec le garçon. Et elle se voit en marchant, elle se voit en train de marcher avec le garçon. Et à un moment, c'est comme si elle monte dans une voiture. Et quand elle monte dans une voiture, les portières se ferment. Et quand les portières se ferment, elle ne peut plus sortir de la voiture. Mais quand elle regarde à l'extérieur, elle voit juste plein de chiens qui essaient de la manger, qui sont en train de sauter sur la voiture et qui essaient de la manger. Et au travers de ce songe, quand elle se réveille, elle comprend le songe et Dieu lui montre qu'en fait, ce gars-là, il est semblable à ces chiens-là. Si tu sors de la voiture dans laquelle je t'ai fait... Et la voiture était une très belle voiture. Et cette voiture reflétait un peu Dieu qui l'a protégée, etc. Et Dieu est en train de lui montrer que si tu sors de cette voiture, tu vas te faire manger et tu mourras. Et là, elle va raconter le songe à son pasteur. Et son pasteur lui dit, faut pas que tu te maries, ma fille. Si Dieu t'a montré ça, c'est que c'est dangereux pour toi. Et elle dit au gars, finalement, on ne va pas se marier. Et quelques jours ou quelques semaines après, ils ont découvert tout un tas d'histoires avec ce garçon qu'il sortait avec plein de filles dans d'autres églises, etc., etc. Est-ce que vous voyez un peu? Elle a pris le temps d'aller consulter Dieu dans l'intimité. Intimité, est-ce qu'on peut dire avec moi intimité? Intimité. Oui. Et tout comme David qui savait passer du temps dans l'intimité, nous aussi allons passer du temps dans l'intimité afin d'avoir davantage sa nature. La nature de Dieu est extrêmement importante lors de la conquête des promesses. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus il te donne, plus tu t'imprègnes de sa personne. Et tu as besoin de sa personne. David avait vu une chose dans l'intimité. David avait vu une chose dans l'intimité. Josué avait compris aussi quelque chose dans l'intimité. C'est que plus tu passes du temps dans l'intimité, plus la nature de Dieu s'imprègne en toi et plus la justice de Dieu s'imprègne en toi aussi. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit ceci. Il nous a aussi rendus semblables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur à la gloire. La justification. Dieu te justifiera. Moïse, quand il communiait avec Dieu, il ne possédait... Il avait une grâce, une faveur sur lui. Mais il n'avait pas une grâce que nous avons en Christ, la justification. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 8, que si qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ est celui qui nous justifie. La Bible dit aussi que Christ est notre justice. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, plus tu passes du temps à le contempler, plus tu te consacres à lui, plus la justice, la justification, c'est-à-dire cet état-là dans lequel Dieu te voit, c'est-à-dire sans défaut, irréprochable, parfait en Christ, cet état-là t'attire la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu veux marcher dans la faveur, consacre-toi et marche dans la justice. Est-ce qu'on me suit? Dieu te regarde. Dieu regarde comment tu opères. Et quand tu élèves la voix, quand tu pries, Dieu voit la justice. Et Dieu dit, lui, je peux déposer ma faveur sur lui. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que la prière du juste fervente, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il précise la prière fervente du juste, celui qui marche dans la justice. Plus tu te consacres, plus tu restes dans l'intimité, plus la justification, la justice de Christ prend possession de ton être. Et Dieu, quand il te regarde, il ne te voit plus. Il voit Christ et sa justice. Et il t'approuve. Est-ce qu'on me suit? La conquête des promesses. Est-ce qu'on peut dire avec moi la conquête des promesses? Cette année, cette saison, si tu marches dans la justice, si tu marches dans la consécration, si tu marches dans l'intimité, la faveur de Dieu sera avec toi. Amen. Et la faveur, c'est important. La faveur, c'est l'un des droits d'alliance. C'est l'un des droits que nous avons dans notre alliance. Le jour où Dieu tisse une alliance avec toi, le jour où tu es en Christ, Dieu dit à partir d'aujourd'hui faveur sur ta vie. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils remettent toujours ces points de l'alliance-là en question. Ils regardent à leur vie, ils disent « Ma vie est si misérable, j'ai tellement fait de choses mauvaises dans le passé que même si aujourd'hui je crois en Dieu, même si aujourd'hui je suis en Christ, je ne peux pas croire que Dieu puisse déposer sa faveur dans ma vie. » Erreur, mensonge de Satan. Mensonge. « Oh, j'ai fait tellement de choses dans le passé, je suis ignorant. Je n'ai pas le niveau de connaissance de la parole de Dieu comme d'autres, etc. » Tu as vu ma vie? Tu m'as regardé? Tu as vu comment j'ai souffert dans ma vie? Tu penses vraiment que Dieu peut bénir quelqu'un comme moi? Mais tu es en Christ ou pas? Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire tu es béni, point barre. Ce n'est pas il va, il t'a béni, tu es béni. C'est un fait établi, point. Quand tu marches, même si personne ne te dit que Dieu te bénit, tu dis ce n'est pas grave, Dieu m'a béni déjà, c'est l'essentiel. Lui et moi, nous sommes la majorité absolue. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi, le diable est un menteur? Oui, c'est un menteur. Et le diable aura toujours te faire croire que tu ne mérites pas la grâce et la faveur de Dieu comme d'autres. Ne l'écoute pas. Et dis-lui que Christ est ma justice et qu'il ne peut rien contre toi. Lorsque le diable t'envoie les épreuves, lorsque le diable se tient devant toi, quelqu'un vient te tenter ou quelqu'un qui te demande de faire des compromis, tu te tiens devant lui et tu dis, écoute, non seulement Dieu est ma justice, sa faveur repose sur ma vie, mais je ne me compromettrai pas. J'ai une intimité si profonde avec lui, je l'aime tellement que je ne peux pas me compromettre. Donc laisse tomber. Et le combat le plus difficile que tu auras à mener est celui de tes pensées, parce que c'est là que le diable attaquera le plus, au moment le plus fort de la bataille. Ce sont tes pensées que le diable viendra attaquer. Tes pensées, 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il nous dit ceci, Paul nous dit ceci à ce sujet. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut savoir, ça là, c'est une clé. Quand tu as des problèmes avec tes pensées, quand tu n'arrives pas à remporter la bataille dans tes pensées, tu es harcelé de mauvaises pensées. Tu es harcelé de pensées qui font la guerre à ton âme, etc. Tu prends cette parole-là. Et puis tu dis, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je saisis toutes mes pensées. Je dis maintenant, Christ, rien d'autre. Je refuse de laisser mes pensées s'égarer. Je refuse de laisser mes pensées se distraire, etc. Je refuse d'écouter ce que tu dis. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes mes pensées sont concentrées sur Christ. J'amène toute pensée captive parce que je sais que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et le moment le plus fort de la bataille et la bataille la plus dure que j'aurai à remporter, c'est la bataille avec mes propres pensées. Ce n'est pas la bataille avec le diable. Le diable est vaincu. Et c'est parce qu'il sait qu'il est vaincu et que tu es en Christ et que tu te consacres et que tu es dans l'intimité avec Dieu, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Mais la meilleure façon de dominer sur toi, c'est de souffler des pensées. Il vient, il souffle. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais quand tu commences à dire mais, c'est fini. Tu commences à, la porte s'est ouverte. Et là, il peut encore souffler d'autres choses. Il souffle d'autres choses. Ta foi en est affectée. Tu commences à douter. Tu en prends un coup et tu finis par abandonner la course. Et il te faut remporter la bataille contre tes pensées. Amen. Quatrième bénédiction de la consécration, le S. Très important. Très important. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, plus tu te consacres. Cette année, quelle que soit ta situation, quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, plus tu vas passer du temps dans l'intimité, plus Dieu va te donner le S, c'est-à-dire la sagesse divine. La sagesse. Est-ce qu'on peut dire avec moi la sagesse? Si tu veux aller loin avec Dieu dans la vie, il te faut la sagesse. Il faut faire la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Je vais l'expliquer tout à l'heure. La sagesse que tu acquiers dans la consécration n'a rien à voir avec la sagesse humaine. La sagesse que Dieu te donne, c'est une sagesse qui est supérieure. C'est une sagesse surnaturelle. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 21, la Bible nous dit ceci. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc Dieu a une sagesse que les hommes n'ont pas. La sagesse des hommes est la sagesse est une sagesse qui est limitée par les cinq sens. C'est une sagesse qui est limitée par la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. C'est une sagesse qui se limite juste à cela. Les gens ne croient que ce qu'ils voient de leurs yeux, ce qu'ils peuvent sentir, ce qu'ils peuvent voir. Ça, c'est la sagesse des hommes. Et c'est sur ces facteurs-là qu'ils décident, qu'ils opèrent. Mais il y a une sagesse invisible de Dieu qui est supérieure à cette sagesse. Et la sagesse divine est cette sagesse qui t'amènera à te distinguer des incroyants dans le monde. Quand tu vas aller cette année à la conquête des promesses de Dieu pour ta vie, quel que soit le business dans lequel tu vas te lancer, quelles que soient les circonstances, quel que soit le domaine dans lequel tu vas t'engager, si tu vas dans l'intimité avec Dieu, tu ne vas même pas savoir comment. Dieu va ouvrir les portes et Dieu va t'amener à opérer avec une sagesse surnaturelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Quel que soit le domaine. Et pourquoi Dieu te promet cette sagesse-là? Mais c'est très simple. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Christ est notre sagesse. L'esprit de sagesse. 1 Corinthiens 8, verset 11, dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors il donnera la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Mais il est aussi l'esprit de sagesse. Et si l'esprit de sagesse habite en toi, ce n'est pas une promesse, c'est un fait établi et réel. Si l'esprit de Dieu habite en toi, alors il y a une sagesse divine en toi. Jusqu'ici que tu n'as jamais utilisée. Amen. Et le seul moyen d'activer cette sagesse divine là, c'est de passer du temps dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Amen. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu consacres du temps, tu passes du temps, tu consacres vraiment du temps avec le Seigneur, dans la méditation, dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne. C'est-à-dire, ta vie est consacrée à Dieu. Quand tu sors de là, tu vas dans le monde et tu travailles. Et puis, tu te retrouves à faire des choses ou à avoir des idées qui te dépassent. Et puis, les gens disent, ah, tu as une idée là, comment? Vraiment, c'est... Idée. Intelligence divine. Est-ce que vous me suivez? Idée. Il y a une intelligence qui dépasse l'intelligence des hommes que Dieu va te donner. Amen. Quand j'ai étudié la parole, je me suis rendu compte que le mot sagesse ici, quand il dit que Jésus-Christ est notre sagesse dans 1 Corinthiens 1, verset 30, le mot sagesse ici est un mot grec que l'on prononce Sophia. Est-ce qu'on peut dire avec moi Sophia? C'est même le prénom de certaines personnes. Mais la Bible nous montre qu'en français, tous les types de sagesse qui sont répertoriés dans la Bible sont toujours appelés sagesse de Dieu. Mais il y a différents types de sagesse. Le premier niveau de sagesse, quand on étudie la Bible, c'est le mot grec que l'on prononce phronesis. Est-ce qu'on peut dire avec moi phronesis? Phronesis est le premier niveau de sagesse qui signifie simplement les aptitudes naturelles ou encore avoir une moralité correcte. C'est la sagesse naturelle des hommes, celle que j'ai définie tout à l'heure, la sagesse des cinq sens. C'est la sagesse basique, de base. Et cette sagesse-là se prononce phronesis. Le second niveau de sagesse, c'est une sagesse que l'on prononce sophia, que l'on retrouve dans le passage-là, que Dieu, dans le cadre de son alliance, nous garantit si nous sommes en alliance avec lui. Et cette sagesse sophia-là parle simplement d'une expertise ou encore de compétence dans un domaine que Dieu va te donner. Vous me suivez? Sophia. Est-ce qu'on peut dire avec moi Sophia? Sophia, c'est parle simplement d'une sagesse pratico-pratique. C'est une sagesse que Dieu va te donner dans le travail. Dans le travail de tes mains, de tes idées, de tes projets, de ton expertise. Tu te compares avec les autres et tu vois que vous avez les mêmes diplômes. Vous avez créé les mêmes business. Vous êtes pratiquement tous au même niveau. Mais au bout d'un certain temps, au cours de ta carrière, Dieu te distingue. Pourtant, tu ne fais rien d'extraordinaire par rapport aux autres. Mais Dieu te distingue juste parce qu'il y a toujours une touche différente ou qui amène tout le monde à se dire, mais ça, comment il a fait ça en fait? Je comprends pas. Ou bien, on fait tous des discours, mais lui, quand il parle, c'est-à-dire, il a une manière d'emmener les mots là qui touchent les gens en fait au plus profond de leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Au plus profond de leur cœur. C'est-à-dire, quand il parle, les gens sont touchés, alors que nous, on fait les mêmes discours, mais on ne touche pas les gens comme ça. Ça, c'est la sagesse. et l'onction, si je peux rajouter ça. Et le troisième niveau de sagesse, celle à laquelle Dieu aspire que nous parvenions tous, c'est la sagesse parfaite, que l'on prononce sunesis ou encore sinesis. Est-ce qu'on peut dire avec moi sunesis? Cette sagesse-là, c'est la sagesse dont on voit Jésus, que l'on voit se manifester chez Jésus-Christ lorsqu'il avait 12 ans, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 47. Il est écrit, « Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. » Le mot « intelligence » ici, c'est le mot « sunesis », qui parle simplement d'une sagesse qui t'amène à être, à comprendre les concepts spirituels. Ou encore, non seulement à les comprendre, mais à les relier entre eux. Tu arrives à comprendre les événements autour de toi. Tu arrives à comprendre les concepts spirituels, à les maîtriser et à les expliquer. Cette sagesse parle aussi d'une intelligence supérieure ou encore une aptitude de l'esprit dépassant la compréhension humaine. Et ça, c'est la sagesse parfaite que Christ avait. Amen. Et Dieu dit que cette sagesse-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te la donner. Et cette sagesse-là, pour la manifester à la dimension de Christ, c'est-à-dire tout le temps, en permanence, c'est très difficile. Mais il peut t'arriver en cours de route où tu es dans une situation et puis tout le monde dit « Oh, comment tu as fait ?» Tu dis « Je ne sais pas. Je sais juste ce que j'ai fait. » Vous voyez un peu? Et cette sagesse-là, quel que soit ton domaine, les gens te regardent et les gens voient juste que ce que tu fais, c'est juste surnaturel en fait. C'est juste divin. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand on les observe, quand on les admire dans le monde, on découvre. Quand par exemple, j'aime beaucoup un joueur de football qui s'appelle Kaka, qui a joué longtemps au Real Madrid. Et ce joueur-là, chaque fois qu'il rendait un but, il disait toujours « Je rends la gloire à Dieu ». Toujours. Chaque fois qu'il faisait une conférence de presse, quand il demandait « Alors comment vous expliquez votre réussite à ce match ?» Il dit « Non, je vais d'abord prendre le temps de rendre gloire à mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mon Sauveur et c'est lui qui donne la capacité de faire ce que je fais. » Il prenait toujours le temps de dire ces choses-là. Et il est réputé pour sa croyance en Jésus-Christ, Kaka. Amen. Et dans son domaine à lui, Dieu lui avait donné une sagesse qui l'a mené jusqu'à cieux. Le jour où vous prenez le temps, pour ceux qui aiment le football, de regarder un peu les exploits de Kaka. C'est-à-dire, quand vous êtes devant l'écran, vous voyez juste un gars qui fait des trucs, mais vous ne savez pas comment il fait. Et puis, il arrive, seulement il met un but. Tu te dis, mais comment il fait en fait? Et puis, tout le monde reste là, mais comment il fait? Sagesse divine. Amen. La sagesse. C'est une sagesse pratico-pratique, la Sophia. C'est pourquoi, dans le livre de Actes, chapitre 6, au verset 3, il est écrit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse. » Ici, c'est le mot grec « Sophia » et que nous chargerons de cet emploi. Cet épisode-là, dans le livre de Actes, c'était simplement les disciples qui étaient en train tous de se préoccuper dans les affaires du peuple. Et les apôtres ont décidé de se consacrer pleinement à la parole et au ministère. Et ils ont dit, choisissez d'autres personnes qui pourront faire le travail que nous sommes en train de faire là. Mais il faut que les personnes que vous allez choisir, ils précisent, soient pleins d'Esprit Saint et de Sophia, de sagesse, dans la pratique. Dans la pratique. Rappelez-vous aussi quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Dieu dit à Moïse, il y a un homme dans ton peuple qui s'appelle Betsalil, à qui j'ai donné une sagesse. C'est à Sophia que je lui ai donné. Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. C'est extraordinaire, hein? Quand la Bible nous lit ce genre de choses, c'est vraiment extraordinaire. Et la Bible nous dit que si tu es en Christ, si tu es consacré à Dieu, si tu cultives une intimité avec lui, si tu lui fais confiance, il va te donner cette sagesse-là dans ton domaine. Amen. Amen. Et tu en auras besoin dans la conquête des promesses. De cette sagesse supérieure, cette sagesse que l'on acquiert qu'avec le Saint-Esprit, cette sagesse qui vient de Dieu directement, cette sagesse, Dieu dit qu'elle est incontournable pour pouvoir opérer dans la dimension dans laquelle tu opères. Gloire à Dieu. Et la sagesse c'est tout. La sagesse c'est la principale chose. Quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de sagesse. La sagesse, même dans le cadre de ton ministère, tu ne peux pas bâtir un ministère sans la sagesse. Quand tu vois quelqu'un réussir dans son ministère, dis-toi que ce gars-là a une sagesse que tu n'as pas. Quand tu vois le succès dans la vie de quelqu'un, et que tu apprends qu'il est en Christ, dis-toi que oui, apparemment, il a une sagesse que moi, je n'ai pas. Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui la lui donne. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui la lui donne. Dieu t'appelle à un ministère, Dieu t'appelle à accomplir des choses, Dieu t'appelle à faire plein de choses, mais tu as besoin, pour pouvoir libérer ton potentiel, tes dons, tes talents, et te distinguer au milieu des gens, d'avoir la sagesse. Et cette sagesse divine, elle vient de Dieu. Et pour l'avoir, il faut aller la cultiver dans l'intimité. Amen. Et la nouvelle création que nous sommes, en nous, nous avons le Saint-Esprit et on possède cette sagesse-là. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Il faut maintenant développer une intimité avec Dieu tout le temps et chercher tout le temps et demander tout le temps à Dieu de nous donner cette sagesse-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand les obstacles viendront, quand les événements viendront, quand les difficultés se présenteront, quand tu devras prendre des décisions très importantes pour ta vie, particulièrement dans les domaines financiers, dans les domaines professionnels, tu devras prendre des décisions où tu seras dos au mur. Tu auras besoin de sagesse. Et Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 21, au verset 15, regardez cette parole. Elle m'a surpris cette parole quand je l'ai retrouvée dans la Bible. Elle est très importante. Jésus-Christ dit, cela vous arrivera, il parlait des difficultés. Il dit, ces difficultés vous arriveront, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Ici, le mot sagesse qu'il utilise, c'est le mot grec sunesis, c'est-à-dire une sagesse parfaite. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dans la version parole vivante, il est écrit le même passage, il dit, ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion de témoigner de moi. Et voilà ce qu'il vous faudra bien graver dans vos cœurs. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir d'avance à ce que vous devrez dire pour votre défense. Car c'est moi qui vous inspirerai les paroles qui conviennent. Vous parlerez avec une telle sagesse que tous vos adversaires réunis ne pourront vous résister ou vous contredire. Amen. Et Christ dit, cette sagesse-là, je te la donnerai. Quand les difficultés viendront, ne réfléchis pas. Pose les actes par la foi et tu verras la sagesse de Dieu derrière. Amen. Oh oui, tu verras la sagesse de Dieu. La sagesse parfaite. On va finir, on va atterrir avec le dernier point. Avec le dernier point. La cinquième bénédiction que Dieu te garantit dans l'intimité, c'est le E. Et le E signifie simplement l'excellence. L'excellence. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'excellence?
L'excellence.
L'excellence. Le manque d'excellence est une maladie que l'on retrouve chez beaucoup de gens et même chez les enfants de Dieu. L'excellence. Dieu est le Dieu d'excellence. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'excellence et la perfection. Quel que soit le domaine, je vous assure, ce principe-là, c'est un principe, quand on comprend ce principe-là, je vous assure, on se distingue des gens très rapidement. Que veut dire le mot excellence? Le mot excellence, premièrement, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Excellence. Excellence. Excellence vient du mot excès et elle. Excès veut dire simplement exceller. Et elle veut dire en hébreu Dieu. Celui qui excelle avec Dieu. C'est ça l'excellence. Est-ce qu'on me suit? Excellence. Exceller avec Dieu. L'excellence. Et l'excellence, c'est la nature de Dieu. C'est un trait de caractère très prononcé chez Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'excellence. Et dans la saison de la conquête, l'excellence te sera d'une grande aide. Tu veux te lancer dans les affaires. Tu sais qu'en face, tu as une concurrence rude. Ce qui peut te distinguer, c'est l'excellence. La manière dont tu amènes tes services, la manière dont tu vends tes produits, la manière dont tu organises tes événements, la manière dont tu présentes tes événements dans tes campagnes marketing, dans tes campagnes de communication, la manière dont tu présentes tes produits en rayon, l'excellence. Et quand les gens ont un gros manque d'excellence, je vous assure, c'est un gros souci. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à accomplir certaines choses dans leur vie parce qu'ils ne sont pas excellents. Ils manquent d'excellence. Et regardez, même les païens ont compris ce principe. Quand le païen a compris l'excellence et qu'il fait les choses bien, même s'il ne croit pas en Dieu, il réussit. Pourtant, il n'est pas dans l'intimité avec Dieu, mais il a compris le principe. Et quand tu passes, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes du temps à la présence de Dieu dans l'intimité, oui, tu seras excellent comme le païen est excellent, mais Dieu va te donner une capacité à être excellent qui sera bien au-dessus qu'eux. Amen. Bien au-dessus qu'eux. Parce que tu auras une sagesse qu'eux, ils n'ont pas, qui t'amènera à poser des actes excellents qu'eux, ils ne peuvent pas poser. Exceller veut dire aussi opérer dans le grandiose. Opérer dans le grandiose. Tout ce que tu le fais avec une haute estimation. Tu vises toujours la mesure au-dessus. Tu cherches toujours à faire mieux. Tu cherches toujours à atteindre la perfection, l'excellence. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'excellence? Donc, quel que soit le produit que tu veux lancer, quel que soit le projet que tu veux bâtir, quel que soit où tu veux aller, vise toujours l'excellence. Parce que c'est la nature de Dieu. Et n'oublie pas le N. Dieu t'a donné sa nature dans la consécration. Et quand Dieu te donne sa nature, il te donne aussi la mentalité de l'excellence. Aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, mon Dieu, on voit le gros manque d'excellence. Regardons simplement autour de nous. En Afrique, il y a un gros problème au niveau de l'excellence. L'excellence est une denrée rare en Afrique. Chez nous, on regarde l'état de notre pays, on voit le manque d'excellence. On regarde les mentalités des gens, on voit le manque d'excellence. On voit la médiocrité partout, la manière dont les gens servent, la manière dont les gens accueillent. Même au Gabon, la manière dont on accueille les étrangers est très médiocre. Le Gabon n'est pas connu pour être un pays touristique. Je mens ou pas? Le Gabon n'est pas connu pour être un pays touristique. Parce que tout simplement, les étrangers ne sont pas accueillis avec excellence. Quand un étranger vient, on l'accueille avec beaucoup tellement de médiocrité qu'il dit « je ne reviens plus ici ». Amen. L'excellence dans tout. L'excellence dans les paroles. L'excellence dans la manière dont tu vends tes produits. L'excellence dans l'accueil. L'excellence dans la manière dont tu te présentes. L'excellence dans tout ce que tu fais. Et tout comme tu peux juger de l'excellence d'une femme en rentrant dans sa maison, de même tu peux juger de l'excellence de la politique de développement d'une nation en regardant comment ses leaders dirigent le pays. Comment ils conduisent la politique du pays. Où est-ce qu'ils mettent les priorités? Où est-ce qu'ils mettent les priorités au niveau du pays? Et ça te donne une idée de la mentalité de la nation. Regardez notre nation. C'est une nation qui a un gros problème d'excellence. Regardez la télévision le soir quand vous l'allumez. Regardez l'état de votre journal. Regardez les couleurs. Regardez comment le présentateur présente le journal. Regardez la qualité des reportages que les journalistes font. Regardez la qualité des journaux locaux que nous lisons. Manque d'excellence. Mais allez dans des pays européens ou occidentaux, ou même pas, dans certains même pays africains, où il y a une mentalité d'excellence qui est plus élevée qu'ici, et vous verrez qu'avec moins de moyens que nous, ils arrivent à faire beaucoup mieux. L'excellence, est-ce qu'on peut dire avec moi l'excellence?
L'excellence.
Le E de consécration, l'excellence t'amènera à faire les choses dans le luxe et la qualité au point d'inspirer le prestige, la renommée, la réputation et la supériorité autour de toi. L'excellence. Dieu n'a aucun problème avec l'excellence, parce qu'il est lui-même excellent. Il est le Dieu excellent. Dieu n'a aucun problème avec le prestige. Quand tu veux faire quelque chose, vise le prestige. Aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église qui ont un problème avec le luxe et le prestige. Ils sont mal à l'aise avec les bonnes choses. Ils sont mal à l'aise avec le prestige. Mais dès qu'on voit un enfant de Dieu qui aime le prestige, on dit qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux, c'est qu'il est excellent. Sa manière d'être, sa manière même de s'habiller, sa manière de se comporter, sa manière de parler avec les gens, il vise toujours l'excellence, il vise toujours la supériorité. Il a une haute estime des gens avec qui il est, il les élève, etc. Tout ce qu'il fait, lorsqu'il le présente, lorsqu'il fait un travail, lorsqu'on lui confie une tâche dans l'église ou même en dehors de l'église, il vise toujours l'excellence. Et quand vous êtes quelqu'un qui visait l'excellence, qui visait le prestige, qui visait la haute estimation et que vous commencez à travailler avec des gens qui sont médiocres, en général, vous dérangez. Vous dérangez. Et c'est pour cela que dans la conquête des promesses, tu auras du mal à t'associer avec les gens médiocres. Tu auras du mal. Même au niveau de ton conjoint. Si ton conjoint est quelqu'un qui manque d'excellence et toi, tu as une mentalité d'excellence, vous allez avoir un problème au bout d'un certain temps. Parce que dans tout ce que vous allez faire ensemble, si lui, il est médiocre et toi, excellent, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous accorder. Amen. Donc, si tu veux réussir dans la conquête des promesses, et entrer en possession des promesses que Dieu a pour toi, tu dois être à l'aise avec le prestige. Les gens qui travaillent, par exemple, dans les domaines tels que le luxe, ce sont des gens qui sont à l'aise avec le prestige. Tout ce qu'ils voient, ils voient toujours prestigieux. Et ça, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. Nous, aujourd'hui, dans l'église, on doit avoir le même regard. Je suis allé dans certaines églises, je vous assure, quand on rentre dans l'église, on voit un tel niveau de médiocrité dans tout qu'on se demande même si Dieu est présent. Parce que je dis non, Dieu n'est pas là. C'est tellement médiocre. C'est tellement moche ce que vous faites ici. C'est tellement sale. Une fois, je suis allé dans une église et puis pendant le culte, je demande, s'il vous plaît, je voudrais aller aux toilettes. Mon Dieu, je suis venu aux toilettes, j'ai dit, je préfère me retenir jusqu'à la fin du culte. Une église où il y a du monde, on accueille des gens importants et il n'y a qu'un seul toilette pour les gens de l'église. Le deuxième, c'est que pour le pasteur. Mais lui, par contre, son toilette, oh là là, comment c'est propre. Mais les toilettes des gens de l'église, mon Dieu, on dirait que la ménagère, ça fait un an qu'elle n'est pas passée. Ah oui, manque d'excellence. Ce sont des exemples simples, mais ô combien tellement importants. Et quand on regarde ta vie, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu te comportes au travail, dans ta vie, on peut déceler si tu es quelqu'un d'excellent ou pas. La manière dont tu rends tes rapports, la manière dont tu rends ton travail, la manière dont tu travailles dans les tâches qu'on te confie, etc., etc., etc. L'excellence. Et quand tu acquiers la nature de Dieu, quand tu as la mentalité de Dieu, l'excellence automatiquement devient une valeur importante chez toi. Ça devient un trait de caractère. L'excellence. Et c'est quelque chose que le Saint-Esprit va te donner. Pour finir, comment être excellent d'un point de vue pratique dans les choses simples de la vie? Un, soyons plus attentionnés que le veut la sagesse humaine. Soyons plus attentionnés dans tout ce qu'on fait, même dans les détails. Il faut viser l'excellence, la perfection. Deux, sortir de sa zone de confort et de sécurité et commencer à faire les choses de manière différente que les autres. Si les autres font toujours les choses avec la médiocrité, toi, fais-le toujours bien. Distingue-toi. Trois, vise le prestige et le luxe dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais vise toujours le prestige. Tu veux lancer un business, vise le prestige. La manière dont tu vends tes services, il faut toujours que ce soit bien propre pour que les gens n'aient rien à dire. Ils aient toujours envie d'acheter à nouveau. 4. Rêve le plus grand possible. Vois grand. Hier, on était en train de présenter ici l'avenir de l'église. Et il y a quelqu'un qui me disait à la fin, c'est vraiment tellement grand et tellement beau que vous allez avoir du mal avec la mentalité d'ici. Je dis, je sais. Parce qu'il me dit, la mentalité d'ici, c'est vraiment pas la mentalité d'excellence comme ça. Et tu vas avoir un gros travail de mentalité à faire au départ. J'ai dit, oui, je sais, on a déjà commencé. Et enfin, élève tes standards dans ton travail. Dans ton travail, élève tes standards. Amen. Élève les standards. Gloire à Dieu. On va incliner la tête pour finir. Ce que nous partageons là, ce sont des bénédictions, des principes très importants aux yeux de Dieu. Et Dieu nous demande de faire très attention à cela. Ce que nous avons reçu et que nous partageons depuis maintenant plusieurs jours, ce sont des bénédictions que l'on va recevoir dans la consécration et dans l'intimité. Et ces bénédictions vont nous accompagner tout au long de l'année. Je ne connais pas tes projets, je ne connais pas les difficultés par lesquelles tu passes, je ne connais pas quel type d'entreprise tu veux lancer, je ne sais pas si tu veux les associations que tu veux faire cette année, mais je t'assure, assure-toi d'avoir la connaissance de Dieu, assure-toi d'avoir l'onction, c'est-à-dire le manteau qui te permettra d'opérer, assure-toi d'avoir la nature de Dieu en passant plus de temps à le contempler. Cherche le S, la sagesse divine, la sagesse Sophia et la sagesse Sunesis, la sagesse pratico-pratique, la sagesse qui te donnera une expertise dans ton travail. Et cette sagesse-là, plus tu passes du temps avec Dieu à méditer sa parole, à appliquer sa parole dans ta vie, à marcher dans la consécration, Dieu va te donner une sagesse au bout d'un certain temps qui va te distinguer des autres. Et le E, l'excellence, vise toujours l'excellence dans tout ce que tu fais, car Dieu est un Dieu d'excellence, excellence, excelle, c'est-à-dire celui qui excelle avec Dieu dans les affaires, celui qui excelle avec Dieu dans le travail, celui qui excelle avec Dieu dans tout ce qu'il fait. Quel que soit ton domaine, que ce soit dans le domaine marketing, que ce soit dans le domaine du luxe, que ce soit dans le domaine événementiel, que ce soit dans le domaine de la restauration, que ce soit dans le domaine du vêtement, quel que soit ton domaine politique, quel que soit, fais les choses avec excellence et tu te distingueras. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est venue encore illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, et nous édifier. Merci, Seigneur, pour ces moments ô combien importants, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ces paroles sont inspirées de toi, Seigneur, et nous te rendons grâce. Parce que nous savons, Seigneur, que tout ceci, ô Dieu, Seigneur, si ce n'était pas toi, Seigneur, cela dépasserait notre entendement. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples, Seigneur. Seigneur, merci pour chacune des personnes qui écoutent, Seigneur, ces paroles, Seigneur. Je prie que à chacun tu puisses accorder la connaissance de Dieu, l'onction divine, Seigneur, qui permet d'opérer, Seigneur, dans le surnaturel. À chacun tu puisses, Seigneur, donner ta nature, Seigneur, afin que ta nature puisse s'imprégner en chacun, ta culture, ta mentalité, tes valeurs, tes traits de caractère, tout puisse s'inculquer en chacun, Seigneur. La sagesse, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, ces paroles puissent recevoir la sagesse, Seigneur, qui dépasse la sagesse humaine. Non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient de ton trône, la sagesse qui vient de Dieu, Seigneur. Quel que soit le domaine dans lequel cette personne opère, Seigneur, je déclare qu'elle opère désormais dans une dimension de miracle, Seigneur, et de percée, Seigneur, à tous égards, à cause de la sagesse divine que tu y donnes, Seigneur. Seigneur, que cette personne soit un entrepreneur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse divine, la sagesse Sophia que tu donnes à cette personne, cette expertise que tu lui donnes, Seigneur, dans la mise en place de ces campagnes marketing, dans la communication, dans le commercial, dans la vente. Seigneur, merci pour la sagesse divine que tu donnes à cette personne pour pouvoir, Seigneur, bâtir le business, bâtir les affaires, Seigneur, auquel tu l'appelles, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse dans les relations. Merci pour la sagesse que nous développons dans les relations personnelles et les relations professionnelles, les relations en affaires, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci également pour la sagesse que tu donnes dans ton église, Seigneur, afin de bâtir ton église, afin de développer ton église. Je te rends grâce parce que, Seigneur, la maison du bâtisseur, Seigneur, sera reconnue comme une église où la sagesse de Dieu est mise en avant, non pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine. Et merci pour l'excellence, Père. Merci pour l'excellence dans tout ce que nous faisons. Merci pour l'excellence, Seigneur, dans tous les actes que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons, dans tous les choix que nous faisons. Merci pour l'excellence. Merci parce que chacune de ces bénédictions, Seigneur, nous accompagne tout au long de cette année, Seigneur, qui est la saison de la conquête des promesses, Père. Merci pour la conquête des promesses. Merci parce que les promesses sont nôtres. Merci parce que, quel que soit, Seigneur, ô Dieu, quelle que soit la situation que traverse cette personne, même celle qui est malade, Seigneur, merci parce que les promesses sont disponibles et merci parce que par la foi, cette personne saisit la parole, Seigneur, qu'elle vient d'écouter et Seigneur, saisit, Seigneur, son miracle et opère et voit s'opérer une guérison immédiate, Seigneur, dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit, Seigneur, la maladie, quel que soit l'handicap, quel que soit le dysfonctionnement dans le corps humain de quiconque écoute cette parole, merci pour le miracle que cette personne saisit maintenant. Merci pour la guérison qui s'opère, Seigneur, en cette personne au nom de Jésus-Christ, afin qu'elle opère, Seigneur, à la dimension à laquelle tu l'appelles dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, le VIH-Sida, le cancer, Seigneur, ou encore, Seigneur, des maladies, Seigneur, au poumon, ou encore des maladies, Seigneur, au bas du ventre, ou encore des maladies dans les jambes, peu importe, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu guéris chacune des personnes qui saisissent ce message par la foi, afin qu'elles puissent rentrer, Seigneur, dans la dimension de la conquête des promesses, et Seigneur, opérer dans la dimension à laquelle tu l'appelles, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom, Seigneur, dans nos maisons, glorifie ton nom dans nos ministères, glorifie ton nom dans nos foyers, Seigneur, afin que tout le monde, Seigneur, puisse demain venir ici et témoigner de ta bonté et de ta fidélité. À toi soit toute la gloire et la louange, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons la suite. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci, Père, parce que tout au long de cette semaine, tu nous accordes la grâce de méditer, Seigneur, sur ces paroles et de les mettre en pratique dans nos vies et de continuer à chercher l'intimité du Saint-Esprit dans la consécration. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Est-ce qu'un véritable adorateur peut acclamer le Seigneur et dire simplement merci au Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.